Bonjour à tous, bonsoir à tous. Voilà, je suis l'administrateur, le seul administrateur du canal Pédocriminalité à travers le monde, Canal Telegram, auquel vous êtes peut-être abonné. Et je viens de publier une nouvelle qui m'a interpellé à propos d'André Fèvre, 74 ans. Il s'agit d'un pédocriminel très dangereux qui est sur le point d'être libéré au Québec. Ce monsieur, en 2018, a été condamné à 12 ans de prison et il va déjà sortir maintenant pour des raisons juridiques qui vous comprendrez dans l'article que j'ai publié précédemment. Je mettrai le lien. Il se trouve, j'ai voulu en savoir plus sur ce monsieur et je suis tombé sur le jugement complet datant du 21 septembre 2018, basé sur des audiences ayant eu lieu entre janvier et juin 2018. Et je vais vous le lire. Ce sera long, mais je me suis dit que ce sera plus vivant de vous le lire, exceptionnellement, je vous fais un audio, que de vous balancer le texte, qui de toute façon ne rentre pas dans un post Telegram qui est limité à 4096 signes et 8 100 signes si on paye 4 euros par mois ou 4 dollars, je ne sais plus. Bref, ce jugement, je l'ai trouvé sur le site Gayglobe, gayglobe.net, gayglobe.net. Il est intitulé Procès du militant André Fèvre pour diverses raisons, pour diverses accusations, pardon, à caractère sexuel. Il a été publié le 12 juillet 2021 par Monsieur Roger-Luc Chaillé sur ce site. Ce site est le site d'un magazine, visiblement. Je vous mettrai le lien. Si vous allez sur la homepage de Gayglobe, vous verrez de quoi il retourne. En principe, c'est du militantisme LGBT, ce qui me fait dire qu'une fois de plus, il serait temps que les milieux LGBT fassent un grand ménage dans leur milieu, car leur milieu comporte énormément de pédopathes, quoi qu'en dise la bien-pensance. Bon, passons ces considérations, je commence la lecture. Donc, Cour du Québec, Canada, province du Québec, sous la présidence de l'honorable Yvan Poulin, pour Sa Majesté la Reine, poursuivant André Fèvre. Alors, l'aperçu du jugement. L'accusé subit son procès sur des chefs lui reprochant des infractions de pornographie juvénile, de contact sexuel, d'avoir conseillé de commettre l'infraction de contact sexuel, d'attentat à la pudeur, de grossière indécence, ainsi que de possession et entreposage illégal d'une arme à feu. Les accusations ont été portées en deux temps, au début de l'année 2016, à la suite d'une enquête policière de plusieurs mois menée par la Sûreté du Québec. L'acte d'accusation sur lequel s'est instruit le procès comportait initialement 17 chefs. Au début du procès, le tribunal a rejeté une demande de la défense visant à obtenir un procès séparé concernant 6 de ces chefs. Dans une décision rendue oralement, le tribunal a rejeté cette requête à la suite de la mise en balance de plusieurs facteurs, dont l'interrelation entre les divers chefs de la preuve. À l'issue de la présentation de sa preuve à charge, le ministère public a concédé qu'un verdict d'acquittement devait être prononcé sur les chefs 16 et 17, puisqu'aucune preuve n'avait été présentée à leur égard. Ce verdict a été prononcé le 6 juin dernier. Au même moment, le ministère public a aussi sollicité une modification de la période d'infraction visée par les chefs 1 et 3, et ce afin de rendre ces chefs conformes à la preuve. Une fois cette modification faite, un arrêt conditionnel des procédures a été prononcé sur les chefs 2 et 4. Bon, jusque-là, c'est pas très intéressant. Mais c'est après que ça devient intéressant. Il s'agit maintenant de déterminer si le ministère public a démontré que l'accusé a commis les autres infractions qui lui sont reprochées, et ce, hors de tout doute raisonnable. La preuve du ministère public est principalement composée du témoignage des deux victimes alléguées, de celui d'un agent d'infiltration ayant côtoyé l'accusé sur une période de 9 mois, des échanges courriels entre l'accusé et l'agent d'infiltration, du fruit de deux perquisitions exécutées à la résidence de l'accusé en milieu et en fin d'enquête, de conversations interceptées en cours d'enquête et de la déclaration extrajudiciaire donnée par l'accusé à la suite de son arrestation. Le ministère public soutient qu'il y a plus de 35 ans, l'accusé a commis des actes de grossière indécence et attenté à la pudeur de X, un jeune garçon qu'il avait accueilli en foyer d'accueil et qui a vécu avec lui pendant quelques années. Qu'entre 99 et 2001, 1999 et 2001, l'accusé a eu des contacts sexuels avec Y, un autre jeune garçon vivant dans un foyer d'accueil où il a travaillé pendant plusieurs mois. Que de manière plus contemporaine, l'accusé a mis en place une plateforme de partage sécurisée permettant les échanges secrets et confidentiels entre pédophiles et pédérastes sur l'Internet. Que des serveurs, disques durs et autres matériels informatiques saisis à sa résidence permettaient de tels échanges. Qu'entre 2003 et 2016, l'accusé a eu en sa possession et accédé à de la pédopornographie. Qu'au cours de cette dernière période, de cette même période, il a produit, imprimé ou publié de la pornographie juvénile ou eu en sa possession de tel matériel en vue de publication. Qu'au cours de cette période, il a rendu accessible ou distribué de la pédopornographie ou eu en sa possession un tel matériel en vue de le transmettre, le rendre accessible ou le distribuer. Qu'entre 2015 et 2016, il a conseillé à un agent d'infiltration personnifiant un pédophile de commettre les infractions d'accès à de la pédopornographie et de contact sexuel avec des enfants. Qu'au cours de cette période, il a conseillé à l'un de ses amis, Monsieur Dave Turcotte, de commettre l'infraction de contact sexuel avec des enfants. Donc Dave Turcotte, Turcotte, Dave, Dave. Que lors de la perquisition exécutée à sa résidence le 27 janvier 2016, il entreposait illégalement une arme à feu et la possédait sans être titulaire d'un permis. En défense, l'accusé a choisi de témoigner en réponse aux allégations des deux victimes alléguées X et Y. Au moment d'amorcer sa défense, il a toutefois indiqué vouloir garder le silence quant aux autres allégations du ministère public. Plutôt que de renouveler sa requête pour séparer certains chefs, l'accusé a invité le tribunal à prononcer une ordonnance limitant le contre-interrogatoire du ministère public aux seules allégations auxquelles il souhaitait répondre. Ben voyons. Cette demande a été formulée en application des principes émis par la Cour d'appel du Québec dans les arrêts Hull et Moras. En l'absence d'objection de la part du ministère public, le tribunal a prononcé une telle ordonnance et l'accusé a répondu aux allégations visées par les chefs 12 à 15. Par voie de conséquence, il n'a été ni interrogé ni contre-interrogé quant aux autres chefs. La position des parties. Chapitre 2 du jugement. Les avocats de la défense rappellent que le fait de s'identifier comme pédophile ne constitue pas en soi une infraction en droit canadien. Ils plaident que le rôle du tribunal consiste à déterminer si chaque élément essentiel des infractions reprochées a été prouvé selon la norme applicable. Ils soulignent que le fait que l'accusé définisse la pédophilie comme une orientation sexuelle et qu'il milite en ce sens ne constitue pas un crime. Et ils invitent le tribunal à analyser la preuve de manière objective, et ce, sans préjugés ni idées préconçues. En ce qui a trait aux gestes posés à l'endroit des deux victimes alléguées, les avocats de la défense soutiennent que la version de l'accusé est de nature à laisser subsister un doute raisonnable et qu'il devrait être acquitté. Relativement aux autres infractions, ils plaident que la preuve présentée par le ministère public, bien que non contredite, est insuffisante et ne rencontre pas la norme applicable. De leur côté, les avocates du ministère public sont en désaccord avec la défense. En ce qui a trait au contact sexuel à l'endroit du premier plaignant, elles soulignent que la version de l'accusé n'est pas de nature à le disculper. En ce qui a trait au second plaignant, elles plaident que l'accusé minimise la portée de ses gestes et que son récit est dépourvu de crédibilité et fiabilité. Elle plaide que l'accusé devrait être déclaré coupable de ses infractions puisque le témoignage des plaignants est crédible et confirmé par la preuve matérielle saisie chez l'accusé et par les aveux de ce dernier à l'agent d'infiltration. Au final, elles soutiennent que la preuve démontre la commission de toutes les infractions reprochées hors de tout doute raisonnable. Chapitre 3. La preuve de la poursuite. Dans ce témoignage, X a relaté le contexte et les circonstances des actes sexuels commis par l'accusé à son endroit il y a plus de 35 ans. Il a mentionné que l'accusé l'emmenait dans sa chambre et le suçait. Il le flattait et lui caressait aussi les fesses, le pénis et le torse. Selon lui, les gestes se sont répétés de manière régulière, au moins une trentaine de fois. Ils avaient toujours lieu dans la chambre de l'accusé. X a expliqué avoir été placé en foyer d'accueil durant toute son enfance. Il est né en 1967 d'une mère qui ne pouvait pourvoir à ses besoins. Il a eu une enfance très difficile et a résidé au foyer d'accueil de l'accusé à compter de la fin des années 70. Aujourd'hui âgé de 50 ans, il s'exprime avec beaucoup de difficultés. Il a révélé la teneur des gestes posés par l'accusé en 2016 lorsque les policiers l'ont contacté. Il ne l'avait pas fait auparavant. Dans le cadre de son témoignage, X a reconnu certaines photos sur lesquelles on le voit, enfant, en compagnie de l'accusé. Ces photos ont été saisies chez ce dernier en janvier 2016, dans des valises contenant un nombre considérable de photos d'enfants. À l'époque des événements, X était connu par l'accusé sous le nom de S. En contre-interrogatoire, X a eu de la difficulté à se remémorer plusieurs détails de son enfance et de son adolescence. Sa mémoire s'est avérée déficiente à plusieurs égards. Il n'a pu par exemple se rappeler de certains endroits où il a habité, des établissements scolaires qu'il a fréquentés, non plus que des divers endroits où il a été placé. Il n'a pu être précis quant au moment spécifique où il a été placé au foyer de l'accusé. Dans le cas de Y, il a expliqué dans son témoignage qu'il a connu l'accusé alors qu'il était âgé de 7 ou 8 ans. Né en 1991 d'une mère criminalisée, Y a été placé en centre jeunesse pendant une grande partie de son enfance. Il demeurait au foyer d'accueil lorsque l'accusé y travaillait à titre d'éducateur au début des années 2000. À l'époque des événements, le foyer d'accueil hébergeait environ une douzaine de jeunes, âgés de 8 à 12 ans. Il était dirigé par G et M, mais d'autres éducateurs y travaillaient également, dont l'accusé. Selon Y, c'est à cet emplacement que des gestes sexuels ont été posés à son endroit. À titre d'éducateur, l'accusé faisait certaines activités avec Y. Entre autres, il l'a emmené avec deux autres garçons sur le voilier d'un ami aux îles de Boucherville, ou Boucherville. Il lui a aussi fabriqué un capteur de rêve, oui, afin de repousser ses cauchemars. Placé au-dessus de son lit, cet appareil était constitué d'une plume, d'une lumière rouge, d'un interrupteur noir et de peau de lièvre. Y a relaté les circonstances des gestes sexuels posés par l'accusé au foyer d'accueil. Le premier est survenu alors qu'il prenait une douche à la suite d'une crise. L'accusé lui avait suggéré d'aller dans la douche pour se calmer. C'est à ce moment qu'il lui a pris le bout du pénis avec ses doigts en lui disant que son petit bout, son prépuce, allumait rouge comme la lumière de son capteur de rêve. L'accusé aurait répété ce même geste une seconde fois à une autre date. Le troisième geste sexuel a été posé au moyen de la plume du capteur de rêve à la suite d'une crise. Y s'était retrouvé seul dans sa chambre, couché sur le ventre avec l'accusé qui le plaçait en arrêt d'agir. Après lui avoir raconté l'histoire de Mogwai du livre de la jungle, l'accusé a pris la plume du capteur de rêve et a commencé à le flatter un peu partout pour le calmer et le détendre. Il a poursuivi cette manœuvre en passant la plume directement sur ses fesses après avoir baissé son bas du pyjama. Puis il a continué ce geste dans sa craque de fesses. Au total, cet événement a duré environ une trentaine de minutes. Y a mentionné avoir senti l'érection de l'accusé lorsque ce dernier l'a placé en arrêt d'agir. À l'époque des événements, l'accusé lui disait qu'il l'aimait beaucoup et qu'il voulait l'avoir comme fils. Il lui donnait des becs sur la bouche de manière régulière en lui disant « mon bec ». Y se conformait à ses demandes, puisqu'il s'y sentait obligé. Il n'avait pas de père pour s'occuper de lui et l'accusé représentait sa figure paternelle. Il a vu l'accusé pour la dernière fois, il y a plusieurs années, après que ce dernier eut été renvoyé du foyer. Il avait à ce moment une interdiction de contact avec lui. Y n'a pas parlé de ces événements aux autorités avant 2016. Il en a discuté pour la première fois le 27 janvier 2016, lorsque les policiers sont venus le rencontrer. C'est à ce même moment qu'il a été informé de l'arrestation de l'accusé en lien avec diverses infractions. Chapitre 3.3. Les rencontres avec l'agent d'infiltration, donc le flic infiltré. Une opération d'infiltration a été mise sur pied dans le cadre de l'enquête à compter de février 2015. Un policier, appelé AI-903 ou agent d'infiltration, s'est présenté à l'accusé sous le couvert d'un pédophile, c'est-à-dire un homme éprouvant une attirance envers les jeunes garçons de 10 ou 11 ans. L'objectif consistait à infiltrer le groupe afin de recueillir les éléments de preuve de la commission d'infraction le cas échéant. À la suite de premières discussions, par le biais de courriel, l'accusé a accepté de rencontrer l'agent d'infiltration en personne afin de discuter de sa situation. Plusieurs rencontres s'en sont suivies. Après chaque rencontre, l'agent d'infiltration notait la teneur des discussions qu'il avait eues avec l'accusé. Au procès, il a témoigné à ce sujet pendant environ 5 jours. Il a spécifiquement relaté la nature et le contenu des discussions intervenues avec l'accusé et d'autres personnes entre les mois de février et novembre 2015. Il a produit les courriels échangés entre eux au cours de cette période et il a été longuement contre-interrogé par la défense. Sans reprendre en détail le témoignage de l'agent, le tribunal estime utile d'en exposer les grandes lignes en s'attardant sur certains éléments permettant de saisir la nature de la relation de confiance qui s'est progressivement installée entre l'accusé et l'agent d'infiltration au cours de cette période. Notons que certains aspects plus précis de ce témoignage seront abordés plus loin dans l'analyse des questions en litige. Comme nous le verrons plus loin, il ressort clairement de la preuve que l'accusé a agi au titre de mentor auprès de l'agent d'infiltration. Les contacts initiaux. C'est au début du mois de février 2015 que l'agent d'infiltration a transmis un premier courriel à l'accusé lui indiquant qu'il avait vu son CV et constaté son implication auprès de diverses minorités sexuelles, indiquant qu'il ne cadrait définitivement pas dans la normalité de notre société. L'agent d'infiltration lui a demandé s'il pouvait l'aider. L'accusé a accepté de le rencontrer afin qu'il puisse parler de sa situation en toute liberté et sécurité. Il lui a écrit qu'il était à l'aise avec les diverses orientations affectives et sexuelles minoritaires, telles que la pédophilie et la pédérastie. Il a spécifiquement mis en garde contre le fait de se confier davantage à partir d'une boîte de courriel non sécurisée. Il lui a dit qu'il lui expliquerait la procédure à suivre pour obtenir accès à un service courriel sécurisé et sécuritaire, anonyme, desservant certaines minorités sexuelles. La première rencontre dans un lieu public. L'agent d'infiltration a rencontré l'accusé pour la première fois le 16 février 2015 en soirée. La rencontre s'est déroulée dans un café et a duré près de 5 heures. Au début, l'accusé lui a demandé de lui préciser son orientation. « Toi, tu es quoi ?» après qu'il lui ait dit que c'était les jeunes garçons d'environ 10 ou 11 ans. L'accusé a monopolisé une grande partie de la rencontre. Il lui a dit que pour lui, la pédophilie et la pédérastie étaient des orientations sexuelles, tout comme l'hétérosexualité et l'homosexualité. Utilisant les acronymes BL pour Boy Lover ou GL pour Girl Lover. Il lui a dit qu'il connaissait des gens qui avaient des relations avec des enfants et que c'était correct et normal. Tout son propos se voulait rassurant pour l'agent d'infiltration qui se présentait comme un pédophile. En ce qui a trait au côté sexuel, l'accusé lui a dit que s'il s'aventure là-dedans, il faut qu'il soit safe, que si c'est bien fait, il n'aura pas de problème avec la police, et qu'à cet âge-là, c'est souvent sous forme de jeu. L'accusé a évoqué l'importance d'avoir l'air naturel auprès des enfants. Il a aussi distingué les boy lovers des abuseurs. Selon sa conception, un boy lover serait une personne qui serait en amour avec les jeunes garçons, alors qu'un abuseur serait un agresseur. La question des courriels et des forums internet a été abordée au cours de la rencontre. L'accusé lui a suggéré d'aller sur les forums de discussion boy lover, que l'on trouve très facilement sur le net, merci Google, afin de trouver des gens avec lesquels il pourrait avoir des intérêts communs. Il lui a aussi parlé de web bleu, un service donc de WEBBLEU, web bleu, un service de courriel sécurisé spécifiquement destiné aux boy lovers, soulignant que les lettres BL se retrouvaient dans le mot web bleu. Il lui a expliqué la nature, le fonctionnement et les particularités du service courriel en question. Il lui a confirmé qu'il lui créerait une adresse courriel sécurisée web bleue et qu'il lui transmettrait les liens relatifs au forum BL. Tiens, j'irai voir tout à l'heure si cette plateforme web bleue existe toujours. Au cours de la discussion, l'agent d'infiltration a parlé de son intérêt pour la relation d'aide. À ce moment, l'accusé lui a conseillé diverses choses lui permettant d'être en lien avec les jeunes enfants, telles l'aide aux devoirs et le scoutisme. Notons que l'accusé a aussi discuté au cours de la soirée de destinations propices à des voyages de tourisme sexuel auprès d'enfants. Il a notamment parlé des circonstances et des détails du voyage effectué en Tunisie par deux amis boy lovers. Dès le lendemain de cette rencontre, l'accusé a créé une adresse courriel sécurisée à l'intention de l'agent d'infiltration. Il lui a conféré un nom d'abonné, Atemu, et sa nouvelle adresse courriel, voilà, l'adresse webbleu.net, avec Atemu, je pense. S'identifiant lui-même comme Alpha ton postmaster, lui a confirmé son abonnement à vie et lui a transmis toute la procédure à suivre pour la gestion et l'utilisation du service de courriel sécuritaire. Utilisant ensuite son adresse webbleu.net, il lui a transmis les détails des forums BL dont il avait été question lors de la rencontre. Il en a profité pour lui donner certaines directives additionnelles, dont le fait de ne jamais mentionner de prénom, même si c'est sécurisé. Dans des échanges courriels subséquents, l'agent d'infiltration l'a remercié pour ses démarches et lui a indiqué qu'il s'était rendu sur les forums en question. Une nouvelle rencontre a été fixée. La seconde rencontre dans un lieu public. Lors de la rencontre du 5 mars 2015, l'accusé a de nouveau monopolisé une grande partie de la discussion. Après que l'agent d'infiltration l'eut remercié et informé des observations qu'il avait faites sur les forums BL, l'accusé lui a parlé davantage de ces forums en précisant qu'ils étaient publics, ce qui constitue un désavantage. Lorsque l'agent d'infiltration a relaté qu'il aimerait rencontrer d'autres boy lovers en personne, d'autres BL donc, l'accusé a signalé que de telles rencontres se déroulaient auparavant, mais qu'il n'y en avait plus. Questionné par l'accusé quant à la raison pour laquelle il souhaitait de telles rencontres, l'agent lui a dit qu'il pourrait ainsi connaître les expériences d'autres BL et apprendre leurs méthodes et leurs manières, et ce, de façon à éventuellement vivre de telles expériences. L'accusé l'a alors mis en garde, en précisant que cela lui montrerait que c'est possible de vivre de telles expériences, mais que ça ne lui permettrait pas nécessairement de le faire. Il a ajouté qu'une méthode qui a fonctionné pour l'un ne fonctionnerait pas nécessairement pour l'autre. Lors de la discussion, l'accusé lui a conseillé de se mettre en lien avec les jeunes au moyen d'une activité ou d'un intérêt qui justifierait sa présence auprès d'eux. Selon lui, cela confirme une forme de protection. Afin d'illustrer son propos, il lui a expliqué que son intérêt personnel pour la moto, par exemple, lui avait permis d'entrer en contact avec de jeunes garçons et de faire des sorties avec eux. Répétant que l'important était d'avoir l'air naturel, il lui a donné d'autres exemples d'activités permettant d'atteindre cet objectif. Il a souligné que le fait que la famille de l'agent d'infiltration ait une ferme constituait une très belle opportunité et qu'il pourrait amener les flots traire les vaches. Entre guillemets, donc, c'est ce que André Fèvre lui a dit. Amener les flots traire les vaches. L'accusé lui a dit qu'il fallait être prudent en ce qui a trait à l'utilisation de l'argent auprès des garçons. Il lui a déconseillé de donner des cadeaux puisque cela pouvait créer une jalousie, éveiller des soupçons et éventuellement mener à une dénonciation. Au cours de la discussion, l'accusé lui a mentionné que les serveurs informatiques étaient à sa résidence. Il lui a dit qu'il avait déjà eu une famille d'accueil et lui a décrit son projet de tribu garçon-dragon, donc de tribu garçon-dragon, développé à l'image des jeux grandeur nature, qui étaient spécifiquement destinés aux jeunes garçons, des jeux de rôle. L'agent d'infiltration s'est montré très intéressé par ce projet. La troisième rencontre dans un lieu public. Donc, on contextualise là André Fèvre en 2015. S'il a maintenant 74 ans, André Fèvre en 2015, il avait 74 ans moins 7, à savoir 67 ans. À la suite de certains courriels au sujet du projet Garçon Dragon, une troisième rencontre a été tenue le 20 mars 2015 au même café. D'entrée de jeu, l'accusé a confirmé à l'agent d'infiltration qu'il le considérait faire partie de la tribu et il a discuté davantage de détails visant à développer ce projet. Il lui a confirmé que deux amis d'elle, un compositeur et un moniteur de scout, étaient prêts à le rencontrer lors d'un souper à son domicile. Il a aussi indiqué qu'il lui montrerait des photos pour étaler les activités que l'on peut faire avec les enfants. Au cours de la discussion, l'accusé a questionné l'agent d'infiltration au sujet de la ferme appartenant à sa famille. Il lui a proposé de vérifier s'il y avait des foyers d'accueil ou des organismes en lien avec les jeunes qui se trouvaient à proximité, et ce, afin d'organiser des activités à la ferme. Il lui a donné des trucs pour faire plus officiel et avoir moins de soupçons. Et avant la fin de la rencontre, l'accusé a dit à l'agent d'infiltration qu'il lui créerait un courriel sécurisé distinct pour le projet de tribu. Il a précisé qu'il était important de garder les choses séparées. Pour les BL, c'est Web Bleu, et pour la tribu, c'est le courriel destiné à cette fin. Peu après la rencontre, l'accusé a créé les nouvelles adresses courriel en question. Il a ensuite transmis la procédure à suivre à l'agent d'infiltration. La première rencontre au domicile de l'accusé, les photos. Le 27 mars 2015, l'agent d'infiltration a rencontré l'accusé à son domicile. Ils se sont installés à l'arrière dans la véranda. Au début de la discussion, l'agent a mentionné qu'il était mal à l'aise de parler de certaines choses lorsqu'ils étaient au café dans un endroit public. Étant maintenant plus à l'aise, il l'a informé qu'il aimerait pouvoir avoir des contacts physiques, toucher, avoir des relations intimes avec les jeunes garçons à l'occasion du projet de tribu. Signalant qu'il avait personnellement beaucoup d'expérience, l'accusé lui a indiqué que les désirs qu'il avait envers les jeunes pouvaient le mettre en danger. Référant à ses expériences personnelles antérieures, il a souligné qu'il pourrait être dans le trouble s'il refaisait les mêmes choses aujourd'hui et que ce serait plus difficile. Il l'a ensuite informé, ouais, plus difficile. Il sort déjà de prison après même pas 4 ans. Il l'a ensuite informé qu'il était pour le conseiller et l'accompagner, mais qu'il ne pouvait pas, par contre, être complice d'un acte criminel. Selon l'agent d'infiltration, c'est à ce moment que l'accusé l'a précisément conseillé relativement à l'attitude à adopter envers les jeunes garçons. Il lui a dit qu'il devait être patient, qu'il devait attendre la bonne opportunité et qu'il ne devait pas brusquer les choses. Afin d'illustrer son propos, il a référé à un événement survenu au moment où il avait mis sur pied une chorale avec un autre individu. Selon lui, c'est l'attitude de l'autre individu qui avait incité des parents à retirer leurs enfants de la chorale. Signalant l'importance d'être patient, l'accusé a indiqué à l'agent d'infiltration qu'il s'agissait de semer dans les champs et d'attendre le moment venu pour la récolte. Des vrais serpents s'épaient de pattes. Lors de la discussion, l'accusé a souligné l'importance de bien gérer ses désirs et son plaisir, ses émotions et ses intentions. Il a mentionné qu'on ne peut forcer un jeune enfant à donner de l'affection, que ça ne se commande pas. Cependant, il a précisé qu'il est possible de susciter un intérêt. Relativement au projet de tribu, l'accusé a évoqué l'idée de créer un organisme sans but lucratif. Oh tiens, tiens, les ONG. Ou les associations, pardon, afin que ce soit plus crédible et pour éviter que leur nom personnel y soit associé s'il arrive quelque chose. Dans le cours de la soirée, l'agent d'infiltration a remarqué des serveurs informatiques dans le salon ainsi que des ordinateurs dans la véranda. Afin de prévoir une prochaine rencontre, l'accusé s'est servi de l'un des ordinateurs de la véranda pour consulter un fichier correspondant à son agenda personnel. À un certain moment, l'accusé s'est affairé à lui montrer une série de photos d'activités possibles avec des jeunes. Au total, ils ont regardé au moins 400 photos de jeunes garçons. Toutes les photos provenaient de deux valises se trouvant au sous-sol de la véranda. Les photos comportaient certaines constantes. Des jeunes garçons, souvent torse nu, montrant leurs muscles et régulièrement en bobette ou en maillot de bain. Alors en bobette, ça doit être un terme québécois, je ne sais pas trop ce que c'est. L'accusé les commentait au fur et à mesure qu'il les lui exhibait. Il a notamment montré des photos d'un S en précisant qu'il s'agissait de l'amour de sa vie. Ou d'un certain S, je pense qu'ils ont voulu écrire, l'amour de sa vie. Il a émis le même commentaire en référant à des photos d'un C. Il a référé à M, photographié sur une moto, comme étant l'un de ses premiers boy riders. Il a aussi montré des photos de jeunes garçons lui donnant un bec sur la bouche. Que de nostalgie. Charmant. En référence à certaines photos se trouvant dans un duotang, L'accusé a signé. Alors là encore, duo de tang, c'est encore un truc québécois. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, pardon. L'accusé a signalé qu'il s'agissait de son best-of. Concernant une feuille comportant certaines adresses courriel, il a dit qu'il s'agissait de ses contacts boy lover. En lien avec des photos de jeunes inconnus, il a expliqué que l'un des passe-temps favoris de tout BL consiste à prendre des photos de jeunes garçons en public. Précisant que la plupart utilisent des téléobjectifs, il a souligné que dans son cas, il utilisait un appareil normal. Notons que durant la discussion, l'accusé a expliqué la différence entre un BL et un LB. Selon lui, le BL est un boy lover, c'est-à-dire une personne pédophile. Quant à l'acronyme LB, il désigne le loved boy, le garçon aimé, en référence au jeune garçon qui est en relation avec le boy lover. Ah, que de nuances, c'est intéressant. La seconde rencontre au domicile de l'accusé, les précautions. Une nouvelle rencontre au domicile de l'accusé s'est déroulée le 3 avril 2015. À cette occasion, l'accusé lui a dit qu'en tant que boy lover, il faut prendre des précautions sur Internet, et ce, tant au niveau des virus, tels que de virus que de la police. Pardon, je recommence. Il faut prendre des précautions sur Internet, et ce, tant au niveau des virus que de la police. Sur ce dernier point, il a fait référence au fait qu'ils ont appris des leçons depuis un événement en France où un fichier pas bien protégé avait été échangé. Il a souligné que les échanges entre deux courriels sécurisés Webbleu sont sécuritaires. Il a certifié que son serveur est sécurisé et encrypté et comporte d'autres courriels sécurisés, dont un pour le GL. Il a aussi dit que tous ces courriels sont sécurisés ensemble. Au cours de la rencontre, l'accusé a donné une série de conseils concernant la navigation sur Internet. Il a dit qu'en tant que boy lover, c'est important de tout effacer les traces que l'on laisse sur notre ordinateur. Dans son cas, à la fin de chaque journée, il efface toutes les traces de ce qu'il a fait sur son ordinateur au moyen de programmes spécifiques. Il a dit qu'il utilise un VPN de Chypre pour dissimuler son adresse IP. Il a souligné que c'est sa fondation LATMS, les amis de toutes les minorités sexuelles, LATMS donc, qui, on va voir si cette fondation existe toujours aussi par la suite, qui paye pour le VPN et qu'il s'agit d'un front pour son organisation Boy Lover. À un certain moment, l'accusé a proposé de trouver des images de garçons et de dragons pour leur projet de tribu. Au moyen de l'un des ordinateurs de la véranda, il a utilisé le furteur et a cliqué sur un hyperlien l'amenant vers un site spécifique dont les coordonnées ont été mentionnées au tribunal par l'agent d'infiltration. Il s'agit d'un forum où les usagers sont identifiés au moyen d'avatars de type manga, représentant des jeunes enfants, performant des activités sexuelles explicites, fellation, masturbation et pénétration. L'agent a remarqué que les noms associés aux avatars étaient des dérivés du terme anonyme et anonymat. Alors qu'il se trouvait à l'ordinateur, l'accusé lui a montré le fonctionnement de certains programmes permettant d'effacer ses traces, précisant que la police avait la capacité de retrouver un fichier effacé normalement. Il a créé un fichier Word qu'il a intitulé garçon-tout-nu.doc pour ensuite l'effacer au moyen de l'un de ses programmes en question. À la suite de ses conseils, l'agent d'infiltration a lancé l'idée de regarder des photos comme il l'avait fait lors de leur dernière rencontre. L'accusé a refusé, mais lui a suggéré d'aller lui-même sur Internet, comme il lui avait antérieurement montré, mentionnant qu'un boy lover devait faire ses recherches par lui-même. Il lui a dit de retourner sur le site où il s'était rendu plus tôt. Il lui a dit que des photos complètement illégales se retrouvaient sur ce site, mais que les administrateurs les retiraient rapidement. Il lui a aussi suggéré quelques thèmes spécifiques qu'il pouvait utiliser pour faire ses recherches. En lien avec le souper, avec certains amis boy lovers qui devaient avoir lieu sous peu, l'accusé a demandé à l'agent d'infiltration de lui faire part de ses attentes. L'agent a alors répété qu'il aimerait que ses amis puissent partager leurs expériences pour qu'il puisse éventuellement en vivre lui-même. Soulignant qu'il ne devait pas se faire trop d'attentes à ce niveau, l'accusé a ajouté qu'il devait préalablement exister un lien de confiance et que ce n'était pas facile pour eux non plus. L'accusé a par ailleurs suggéré à l'agent d'infiltration de faire son premier post sur le forum BL, dont il lui avait donné les coordonnées à la suite de leur première rencontre. Il lui a suggéré de simplement se présenter comme BL en indiquant son âge et son métier d'agriculteur. Au cours de la discussion, l'agent d'infiltration a introduit le fait qu'il commençait à entrer en relation avec son jeune voisin de 10 ou 11 ans. Il a indiqué qu'il s'occupait parfois de lui pour aider la mère, monoparentale, pour des choses toutes simples. À partir de ce moment-là, l'accusé s'est immédiatement intéressé à son récit et a rapidement proposé d'inclure l'enfant dans le projet de tribu. Lorsque l'agent lui a indiqué que le père de l'enfant n'était pas présent dans sa vie, l'accusé a rétorqué que la plupart des histoires de boy lovers commençaient comme ça. Il lui a ensuite donné certains conseils quant à la manière de se mettre en relation avec le jeune. Il lui a dit de s'occuper de l'entourage du garçon, des amis et de la mère. Faisant référence à l'une de ses relations antérieures, il a expliqué qu'il avait été dénoncé par la mère du meilleur ami de l'enfant. En rapport avec ses relations antérieures, l'accusé a explicitement référé à S, C, M et Y. Il a indiqué que pour contrôler ses désirs, il se concentrait sur son plaisir d'être entouré de jeunes garçons. Il a mentionné certains contacts physiques qui le satisfaisaient, comme s'embrasser et se coller. Disant ne pas avoir eu d'activité à caractère sexuel, il a toutefois mentionné plus loin dans la discussion qu'il avait vécu avec S jusqu'à un certain âge et qu'ils faisaient l'amour tous les jours ensemble avant. Au cours de la soirée, l'accusé s'est dit en désaccord avec la législation relative au consentement sexuel. Pour illustrer son propos, il a souligné qu'il était illogique qu'on puisse conduire un scooter à 14 ans, mais qu'on ne puisse pas décider d'avoir ou non une relation avec un adulte. Notons qu'au cours de la soirée, l'accusé a présenté son colocataire, Simon Brochu, à l'agent d'infiltration. Donc Simon Brochu, Brochu. Simon. Le souper entre amis. Boy Lover. Le souper s'est déroulé le 10 avril 2015 au domicile de l'accusé. À l'arrivée de l'agent d'infiltration, l'accusé, son colocataire André Brochu, ainsi que Ross Perrin étaient déjà sur place. Dave Turcotte s'est peu après joint au groupe. Donc Turcotte, je vous l'ai déjà appelé tout à l'heure. Ross Perrin, alors son prénom est Ross, Ross. Perrin, Perrin. Et des discussions s'en sont suivies sur une période de quelques heures. Au début de la soirée, Dave a demandé à l'agent d'infiltration s'il était effectivement Boy Lover. Après qu'il eut acquiescé, Dave lui a décrit son parcours personnel en tant que Boy Lover. Il a expliqué qu'il avait débuté sur les forums pour ensuite participer à des rencontres de Boy Lover. À l'époque, la tâche de l'accusé et d'un dénommé Jean-Marc consistait à filtrer les gens qui allaient pouvoir s'introduire dans le groupe. C'est à cet endroit qu'il a connu l'accusé. Dave a expliqué qu'il était impliqué dans les scouts depuis environ 10 ans et qu'il avait comme projet d'ouvrir un foyer d'accueil pour jeunes. Il a souligné qu'il avait entrepris des démarches pour avoir ses cartes d'Amérindien et il a été question du fait que ce serait un bon endroit pour un foyer. À ce sujet, l'accusé a mentionné que s'il arrivait quelque chose, les autorités n'oseraient pas intervenir en raison du statut particulier des réserves indiennes. En raison du statut particulier des réserves indiennes. Donc un peu protégé, un peu hors la loi. Dans le cadre des discussions, Dave a blâmé le gouvernement conservateur relativement au fait que l'âge de consentement était à 16 ans. De son côté, l'accusé a abordé sa compréhension de la définition d'agression sexuelle. Au cours de la discussion, Dave et l'accusé ont parlé de certaines de leurs expériences personnelles impliquant des jeunes garçons. Sans toutes les reprendre, soulignons que l'accusé a référé aux événements qui se sont produits avec S, en précisant que s'il en parle, c'est sûr, je me retrouve en prison. L'accusé a aussi parlé du moyen qu'il utilisait pour se retrouver seul avec des jeunes lors d'une sortie dans les Laurentides, c'est une région du Canada, ça, ou du Québec. Il a décrit la manière avec laquelle il les amenait à se dévêtir complètement pour exécuter un rituel indien dans une tente à vapeur. L'accusé a indiqué qu'à 12 ou 13 ans, c'est le meilleur âge puisqu'ils veulent encore avoir de l'affection comme des enfants, tout en étant plus aventureux comme des adolescents. À un certain moment, au cours de la soirée, l'accusé est allé récupérer le duotang comportant son best-of. Ils ont commencé à regarder certaines photos en décrivant les histoires qui y étaient associées. L'agent d'infiltration a remarqué que Dave les connaissait toutes déjà. Dans le cours de la discussion, l'accusé et Dave ont référé au moment où leurs entourages respectifs ont redouté qu'ils soient des pédophiles. Tous deux ont utilisé l'excuse d'être homosexuels pour expliquer la situation. Durant la soirée, Dave a mentionné qu'il était capable de se passer de la sexualité. De son côté, l'agent d'infiltration a raconté les circonstances dans lesquelles il avait découvert qu'il était pédophile. Avant de partir, Dave a remis son numéro de cellulaire à l'agent d'infiltration, l'installation de logiciels et les mesures de précaution. À la suite de certains échanges de courriels, l'agent d'infiltration a de nouveau rencontré l'accusé à son domicile le 24 avril 2015. Il a apporté son ordinateur personnel et l'accusé lui a installé plusieurs logiciels et l'a conseillé quant à l'utilisation de son ordinateur et de l'Internet. Entre autres, il lui a montré comment se servir de la navigation privée et de l'extension permettant de cacher son adresse IP. Il lui a expliqué comment nettoyer son ordinateur et comment effacer des fichiers efficacement. Il lui a aussi montré comment cacher les hyperliens relatifs à la web bleue et au forum BL pour éviter qu'ils ne soient visibles que lorsque l'ordinateur est ouvert. Au cours de cette rencontre, l'accusé a plus amplement décrit le fonctionnement, la structure et les ramifications de son système de courriel sécurisé web bleu, ainsi que des projets d'avenir à ce sujet. En présence de l'agent, il a discuté via Skype avec un dénommé Donny afin de régler un problème affectant le service de courriel. Plus tard en soirée, Dave Turcotte s'est joint à eux et ils ont parlé de films à voir en tant que boy lover. Il a été question de films des années 50 et 60 où on voit des scènes de nudité de jeunes enfants qui ne pouvaient plus se faire aujourd'hui. À la fin de la rencontre, l'accusé a dit à Dave qu'il avait sécurisé l'ordinateur de l'agent d'infiltration pour qu'il aille voir des sites pas catholiques. Dave lui a dit: fais attention, mets-toi pas dans la marde. Et l'accusé a rétorqué qu'il n'y avait pas dit où aller voir. La rencontre du 4 mai 2015. Le 4 mai 2015, l'agent d'infiltration a rencontré l'accusé à son domicile. Il a d'abord été question des posts que l'agent avait émis sur les forums publics et des réponses qu'il avait reçues. Puis l'accusé décrit ses quatre priorités en lien avec Webbleu: la migration du service courriel, la boutique, les forums et l'émission de radio. Une émission de radio. L'agent a ensuite informé l'accusé qu'il avait des nouvelles concernant son jeune voisin. Il lui a dit qu'il avait récemment remarqué que le jeune garçon venait davantage vers lui. L'accusé lui a alors indiqué qu'il fallait laisser le jeune faire les affaires et que c'était important d'être patient et de ne pas provoquer ni brusquer les situations. Il lui a dit qu'il va falloir que tu t'arranges pour qu'il aille à tes intentions, en précisant que si les choses ne venaient pas du jeune, ça pourrait le mettre en danger. L'accusé a indiqué que la plupart des jeunes n'avaient aucun intérêt sexuel avant 14 ans. L'accusé a indiqué que la plupart des jeunes n'avaient aucun intérêt sexuel avant 14 ans. Il lui a dit de ne pas se faire trop d'attentes par rapport à cela, puisque le jeune était peut-être hétérosexuel et pourrait n'avoir aucun intérêt envers lui. L'accusé a signalé qu'il devait justifier sa présence auprès de cet enfant et expliquer pourquoi il n'avait pas de blonde. Donc une blonde au Québec, c'est une amie, une copine, voilà, compagnon. Il a répété que dans son cas, il utilisait le fait d'être homosexuel, pardon, il utilisait le fait d'être homosexuel comme couverture. Évoquant certaines expériences personnelles, il a donné certains autres exemples de situations auxquelles il devait être prêt à réagir. Il a dit à l'agent qu'il fallait manipuler sur les affaires qui font ton affaire. Puis, il lui a suggéré de prendre une photo du jeune garçon. Sur un autre sujet, l'agent a révélé à l'accusé qu'il avait fait des recherches sur Internet en utilisant des termes que ce dernier lui avait proposés. Il a dit qu'il avait voulu lui transmettre une image sur son compte Webbleu, mais qu'il ne l'avait pas fait. L'accusé lui a dit de ne pas lui envoyer de photos et que c'était un risque complètement inutile. Il a référé au règlement Webbleu qui précise que c'est interdit. Il a dit qu'il n'y avait rien d'illégal sur son ordinateur, tout en soulignant qu'il ne regarde pas ce que les autres envoient. Il lui a suggéré de la scanner, de l'imprimer, de la montrer, mais de ne pas envoyer d'image par courriel. Et il lui a dit que quand il veut voir, il va sur Internet et utilise tous les programmes une fois qu'il a terminé. Donc pour effacer, quoi. Tous les programmes pour effacer ses traces. Toujours en présence de l'agent d'infiltration, l'accusé s'est ensuite dirigé aux ordinateurs de la véranda pour effectuer des recherches d'images de jeunes garçons nus à l'aide du moteur de recherche Google Images. Il a cliqué sur certaines images en les commentant. L'agent d'infiltration a subséquemment quitté les lieux. Notons qu'au cours de cette rencontre, l'accusé a transmis des courriels sécurisés à deux de ses amis BL dans le but de les présenter à l'agent d'infiltration. Dans des courriels subséquents, il a confirmé que l'un d'eux, un dénommé Capitaine Kidd, avait accepté d'échanger avec l'agent d'infiltration. Il a précisé qu'il le connaissait depuis 15 ans et qu'il était en sécurité avec lui. La rencontre du 1er juin 2015. Lors de la rencontre du 1er juin 2015, l'accusé et l'agent d'infiltration ont parlé de la nécessité de recruter une troisième personne pour le projet de Tribu Garçon Dragon. Lorsqu'il a été question de placer une annonce à cet effet, l'accusé a mentionné qu'on ne peut pas dire qu'on est pédophile, puisqu'on attirait l'attention des policiers, et encore pire, des journalistes. Plusieurs aspects du projet ont été abordés au cours de la discussion. Durant la rencontre, l'agent d'infiltration lui a montré une photo qu'il avait prise de son jeune voisin et lui a montré. À ce sujet, l'accusé lui a conseillé de laisser le jeune prendre des photos par lui-même et que ça allait mieux se passer. Et que ça allait mieux passer, pardon. Il lui a aussi suggéré de se rendre à une piscine publique avec l'enfant. Lorsque l'agent a évoqué certaines craintes par rapport à ça, l'accusé l'a réconforté en lui disant que plus il le ferait, plus il aurait l'air naturel, plus il aurait l'air naturel. Il lui a ensuite suggéré de parler de sa femme au jeune garçon, pour que ce dernier demande d'y venir de lui-même. Il a aussi dit à l'agent de préparer ses propres parents pour qu'il ne soit pas étonné lorsqu'il se présentera avec l'enfant. Lors de la rencontre, l'agent a confirmé à l'accusé qu'il avait répondu à Capitaine Kidd. Il a quitté les lieux après qu'ils eurent discuté du fait que le serveur web bleu avait été hors fonction en raison de certaines mises à jour. La rencontre du 15 juin 2015. Au cours de cette rencontre, l'accusé et l'agent d'infiltration ont effectué un suivi relativement à l'annonce visant à recruter une troisième personne pour la tribu garçon Dragon. L'accusé a effectué des vérifications de la boîte courriel sécurisée de l'agent d'infiltration à ce sujet. Au cours de la discussion, l'agent a informé l'accusé qu'il avait suivi certains de ses conseils en lien avec son jeune voisin. Il lui a dit avoir parlé de sa ferme et avoir informé ses parents de l'idée d'inviter un jeune homme pour le visiter. Durant la rencontre, l'accusé a mentionné que la Sûreté du Québec s'était présentée à son domicile, mais qu'il ne pensait pas que les policiers avaient fouillé dans ces choses. Il a dit qu'en tant que boy lover, il n'était pas à l'abri du hasard. La rencontre du 16 juillet, du 6 juillet 2015. À la suite d'autres échanges courriels, l'agent a de nouveau rencontré l'accusé à son domicile. Discutant au départ de la panne de Webbleu, l'accusé a évoqué sa migration éventuelle vers un nouveau serveur se trouvant également à son domicile. Relativement à la tribu Garçon Dragon, il a mentionné qu'aucune réponse n'avait été reçue et qu'il rencontrerait les dirigeants de Bicoline pour leur exposer son idée. Bon, on nous a nulle part dit ce qu'était Bicoline auparavant. Qu'est-ce que Bicoline? À son arrivée, donc Bicoline, c'est Bicolline pour ceux qui veulent faire des recherches. À son arrivée chez l'accusé, Dave Turcotte a mentionné qu'il arrivait de son camp scout qui ne s'était pas très bien déroulé. Sans donner de détails à ce sujet, il a évoqué un conflit avec une autre monitrice qui se trouvait sur place. Au fil des discussions, il a mentionné qu'il avait vu un jeune garçon tout nu dans le contexte où il s'était retrouvé seul avec lui, pour tenir sa serviette afin qu'il puisse se changer. En lien avec le conflit, Dave a souligné qu'il allait peut-être quitter les scouts. Au cours de la discussion, Dave et l'accusé ont élaboré divers scénarios pour nuire ou faire peur à la monitrice en question. Il a été question de faire une fausse plainte contre elle à la DPJ, bon, la police quoi, pour des attouchements contre un jeune enfant. D'accord. Ok. L'accusé, c'est dégueulasse. Il a aussi été question que l'agent d'infiltration prétende être le conjoint gay de Dave. Selon l'accusé, l'organisation scout n'oserait ainsi pas s'en prendre à des gays. Plus tard au cours de la soirée, l'agent d'infiltration a relaté les derniers développements concernant son jeune voisin. Lorsqu'il a confirmé que ce dernier allait finalement venir à sa ferme, l'accusé a souri et a mentionné qu'il avait bien écouté ses conseils. En lien avec ce développement, Dave s'est questionné quant à la réaction des parents de l'agent d'infiltration face à cette visite. Dave a mentionné que ses propres parents se doutaient qu'il était pédophile, mais qu'il ne l'avait jamais confronté. Peu après cette discussion, Dave leur a montré environ 25 vidéos du camp scout. Lors du visionnement, Dave et l'accusé ont formulé des commentaires sur la beauté des jeunes garçons. Dave a mentionné que l'on voyait quasiment la graine de l'un d'eux. Alors la graine, je sais pas ce que c'est encore un terme québécois. Après le visionnement, Dave s'est servi du logiciel permettant de nettoyer les traces laissées sur son ordinateur. La rencontre s'est terminée peu après. L'expulsion de Dave Turcotte. Le 22 juillet 2015, Dave Turcotte a transmis un message à l'agent d'infiltration l'informant qu'il avait été mis à la porte des scouts de Saint-Hilaire. L'agent lui a répondu qu'il était déçu pour lui. La rencontre du 27 juillet 2015. Dès le début de la rencontre du 27 juillet 2015, l'accusé et l'agent d'infiltration ont discuté de l'expulsion en question, soulignant que Dave était un outsider, puisqu'il n'avait pas d'enfant dans les scouts. L'accusé a expliqué avoir entrepris certaines démarches avec lui afin de lui trouver une nouvelle meute de scouts, soulignant qu'il s'était lui-même fait mettre dehors des scouts il y a plusieurs années. L'accusé a relaté que cela faisait suite à une histoire impliquant un jeune garçon et de la jalousie. Il a brièvement parlé de cet événement, ainsi que de certaines relations qu'il a eues avec des garçons. Après que l'accusé eut discuté de sa rencontre avec Bicoline, l'agent d'infiltration lui a indiqué qu'il avait dû annuler la visite à la ferme de son jeune voisin en raison d'un empêchement. Il a cependant souligné qu'il avait prévu d'aller magasiner un sac d'école avec lui. Acheter, magasiner, je sais qu'en québécois ça veut dire acheter. Acheter dans les magasins. La rencontre du 17 août 2015. Au cours de la rencontre du 17 août 2015, l'accusé a essentiellement fait le compte-rendu à l'agent d'infiltration de sa récente visite à Bicoline en lien avec le projet de tribu. Il a souligné que deux BL, qui sont en France, seraient intéressés à s'impliquer, dont Denis, qui s'occupe de ses serveurs à distance. En ce qui a trait à Dave, il a été mentionné qu'il attendait toujours certaines réponses concernant des démarches pour réintégrer sa meute de scouts ou s'en trouver une nouvelle. Et relativement au jeune voisin, l'agent d'infiltration a indiqué qu'il était toujours prévu qu'il vienne à sa ferme. La rencontre du 14 septembre 2015. À la rencontre suivante, l'agent d'infiltration a rencontré Dave Turcotte et l'accusé. La rencontre visait à discuter d'un projet dans lequel ils seraient tous trois impliqués. D'entrée de jeu, l'agent d'infiltration les a informés que son voisin était venu à la ferme et que tout s'était très bien passé. Mentionnant que l'ami de son jeune voisin viendrait possiblement à la ferme lors d'une prochaine visite, l'agent d'infiltration a souligné que cela visait à éviter que la jalousie s'installe entre eux. Devant cette explication qui correspondait à l'un de ses conseils, l'accusé a commenté que l'agent d'infiltration était un bon élève. Brave garçon. Au cours de la discussion, il a été question du fait que Dave n'avait pas été réintégré dans la meute de scouts de Saint-Hilaire. Lorsque Dave a évoqué l'idée de devenir grand frère, l'accusé a discuté d'un incident impliquant un dénommé Jesse, qui aurait été impliqué dans cet organisme. En réponse à Dave, qui s'interrogeait sur la façon de déclencher des occasions, des opportunités, l'accusé a répondu qu'il faut que ça vienne du flot. Faut laisser venir. L'accusé a ensuite évoqué des relations qu'il avait eues avec certains jeunes qui ne l'avaient pas dénoncé. Toujours au cours de cette même discussion, Dave s'est un peu fâché face à la perception de la société envers les Boy Lovers. En lien avec cette réaction, l'accusé a mentionné qu'il avait déjà eu l'idée de s'adresser aux droits de la personne pour questionner ce qu'il y avait de mal à être pédophile, étant donné que la pédophilie est une orientation sexuelle. C'est pour éviter les réactions qu'il ne l'aurait finalement pas fait. La dernière rencontre chez l'accusé. Après certains courriels, le trio s'est entendu pour se concentrer le 16 novembre 2015. À cette occasion, Dave a expliqué les derniers développements concernant son implication dans les scouts, en lien avec le fait que le gouvernement libéral avait proposé d'accepter 25 000 réfugiés syriens. Dave a lancé l'idée d'en adopter un. Ben voyons! À cet égard, l'accusé a souligné qu'il s'agissait d'une bonne place pour recruter les jeunes enfants, enfin d'une bonne opportunité pour la meute, pour recruter des jeunes enfants pour la meute. L'accusé a aussi donné des détails concernant la raison du mauvais fonctionnement du site Webbleu. Lors de la discussion, Dave a souligné que à l'agent d'infiltration que la piscine olympique serait un bel endroit pour emmener son jeune voisin. À la fin de la rencontre, il a été question d'un CD comportant des photos et vidéos porno que l'accusé avait en sa possession et qui lui avait apparemment été remis par un dénommé Roger. Malgré l'insistance de Dave, l'accusé a refusé de lui montrer. Après cette rencontre, l'agent d'infiltration n'a plus revu l'accusé. Lors du contre-interrogatoire, l'agent d'infiltration a expliqué la procédure qu'il a suivie pour sa prise de notes, ainsi que pour se remémorer les propos tenus par l'accusé et les autres sujets. Il a confirmé que chaque rencontre était suivie d'un débriefing au cours duquel il décrivait les grandes lignes de discussion et en redirigeait les faits saillants. Le lendemain, il rédigeait ses notes personnelles de manière à ce qu'il puisse se remémorer les événements et se rafraîchir la mémoire. En préparation de son témoignage, il a révisé ses notes et les courriels échangés afin de rapporter le plus fidèlement possible les paroles de l'accusé et le contenu des rencontres. La perquisition subreptice de juin 2015. En cours d'enquête, la Sûreté du Québec a effectué une perquisition subreptice à la résidence de l'accusé. Cette perquisition a été autorisée par mandat. Au moment de son exécution, l'opération d'infiltration était toujours en cours. Prétextant qu'un examen du domicile de l'accusé était nécessaire, les policiers ont fouillé et copié le contenu de certains ordinateurs et items se trouvant sur place. La perquisition en question s'est déroulée le 11 juin 2015. Bon, pour la suite, je ne vais pas continuer car ce serait vraiment trop long et je pense que le plus intéressant était le procès-verbal des rencontres entre le policier infiltré et ses ordures. Pour la suite, je vais vous mettre le lien. Si vous désirez lire le lien, cliquez dessus et lisez-le. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.